Bonsoir, un chiffre une nouvelle fois décevant, c'est celui de la croissance en France en 2018 qui va ralentir, plus 1,7%, nouvelle estimation de l'INSEE révélée ce mardi soir à 18h. Oui, l'INSEE qui parle de nuages après l'ensoleillement de 2017, vous en souvenez, avec une croissance de 2,3%. Alors bon, bien sûr, il va falloir attendre les effets de la loi Pacte et les mesures prises par le gouvernement en faveur du pouvoir d'achat. Mais la tempête, elle gronde à nos frontières et ailleurs, avec une Italie donc dirigée par des populistes, la crise en Allemagne autour des migrants, les prix du pétrole à la hausse, et puis évidemment cette escalade commerciale entre la Chine et les États-Unis. Alors comment affronter ces vents contraires? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, des vents contraires, et vous l'avez suivi aujourd'hui sur BFM Business, notamment avec Pauline Tadevin dans l'intégrale bourse, on l'a vu, les marchés en recul, la bourse de Paris qui baisse d'1,1%, 5390, l'Allemagne aussi, Francfort, moins 1,2%, et puis les marchés en recul aussi en ce moment où on se parle, aux États-Unis, sous l'effet du différend commercial entre les États-Unis et la Chine qui s'accélère depuis quelques jours, et puis l'euro également, qui baissait aussi face au dollar, tout ça, on va en reparler aussi. Et puis, on reviendra aussi, vous savez, sur Paris et Berlin qui s'engagent pour un budget commun pour la zone euro. Réunion très importante, c'était cet après-midi, donc, avec la visite du président de la République, Emmanuel Macron, auprès de la chancelière fédérale, Angela Merkel. Alors, c'est vent contraire. On va en parler ce soir dans les décodeurs de l'écho avec Denis Ferrand, qui est directeur général de l'Institut COE Rexecode. Florence Poivet, qui est membre du conseil exécutif du MEDEF. Au président, il y a encore quelques jours, de la Fédération de la Plasturgie et des Composites, Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business, et puis Philippe Mutrici, directeur de la prospective à BPI France. Alors, Emmanuel, on va revenir vraiment un résumé de ce que l'INSEE nous a révélé donc ce mardi soir à 18h. On le redit, plus 1,7%, donc croissance en recul par rapport donc à 2017. On rappelle le chiffre très décevant du premier trimestre qu'on avait largement commenté en son temps, plus 0,2%. Le deuxième trimestre, plus 0,3%. Et puis estimation donc sur le 3T et le 4T à plus 0,4%. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? C'est médiocre? C'est un trou d'air? C'est un tassement? C'est quoi? Dites-moi.
Alors, l'INSEE ne retient ni le scénario du trou d'air, qui consistait à dire il y a un mauvais début d'année, mais ça va repartir après. Mais l'INSEE ne retient pas non plus le scénario de la fin du cycle l'agonie de la reprise. L'INSEE nous dit, en fait, on est sur une altitude de croisière, un rythme de croissance de croisière, mais cette vitesse n'est pas très élevée parce que on commence à être confronté à des vents contraires. C'est vrai que 0,2% au premier trimestre, 0,3 au deuxième, mais ça aurait été 0,4 s'il n'y avait pas eu les grèves, parce que l'INSEE chiffre à 0,1 point l'effet des grèves.
Ça vous semble quoi?
Totalement traditionnel, effectivement, puisqu'il n'y a pas eu non plus, vous savez, de ces gros effets qui sont liés, par exemple, à des problématiques de rupture d'approvisionnement quand on a des grèves de blocages de raffinerie, etc. Donc c'est tout à fait crédible. Donc le rythme de croissance de l'économie française, c'est 0,4. Il y a des vents contraires qui sont quoi? Qui sont les prix du pétrole plus élevés, l'euro plus cher, qui sont les incertitudes italiennes, la montée du protectionnisme, qui sont les tensions qui commencent à apparaître sur l'appareil de production et notamment les pénuries de main d'œuvre. Mais en revanche, l'INSEE insiste bien en disant qu'il y a encore du carburant dans la machine parce que va y avoir un soutien au pouvoir d'achat en fin d'année avec toutes les mesures fiscales du gouvernement d'Edouard Philippe. Les entreprises ont quand même besoin de moderniser et d'augmenter leur machine et leur appareil de production. Et puis, il y a un commerce extérieur qui est plutôt bien orienté. Il y a un petit point quand même qui est étonnant, c'est sur le marché du travail. Quand vous regardez en détail les chiffres de l'INSEE, en fait, il n'y a quasiment pas de baisse du chômage. Et alors, peut-être que l'INSEE doit réconcilier aussi ces statistiques. C'est-à-dire que quand vous regardez les créations d'emplois, on en a eu beaucoup en 2017, 340 000. Mais là, on en aurait quand même encore 180 000. Sauf que, en 2017, la population active n'a quasiment pas augmenté, nous dit l'INSEE, 2000 personnes seulement. Et en revanche, 180 000 personnes nouvelles attendues sur le marché du travail cette année. Et si vous avez autant de personnes qui arrivent sur le marché du travail que de personnes qui en sortent, évidemment, votre taux de chômage baisse très peu. Et c'est ce que nous dit l'INSEE. Mais il faut bien décrypter ces mouvements important.
Taux de chômage qui devrait recommencer à baisser à 8,2%
oui,
fin 2018. J'ai pas dit que c'était voilà, mais enfin en tout cas, je cite la note de l'INSEE que j'ai lu évidemment avec beaucoup de passion, donc depuis 18h.
Pas autant que moi, et pas autant que Denis non plus.
Denis Ferrand, bon.
C'est la note la plus importante de l'année, il faut le dire. Hein. La note qui sort en juin, qui vous donne pour la première fois les perspectives pour le deuxième semestre, et qui du coup vous donne pour la première fois les perspectives de l'année, c'est quand même celle qu'on attend le plus, Denis.
Bon, non, après, on va faire davantage ou pas, Denis Ferrand?
Oui, parce que c'est vrai que l'INSEE en fait toujours de la prévision à 6 mois. Il y a un partage des tâches.
Pour pas être embêté avec les prévisions officielles de Bercy, etc.
Parce que c'est vraiment sur la conjoncture, c'est une analyse de la conjoncture. Mais ce qui est intéressant dans ce que rappelait Emmanuel, c'est que on parle beaucoup de la métaphore météorologique, ça c'est le truc très classique. Il y a le vent contraire, mais il y a surtout aussi...
Il y avait l'ensoleillement en 2017.
Il y avait l'ensoleillement, exactement.
Cite, le gars de l'INSEE qui a fait la note.
Ouais. Exactement, mais il faut bien garder présent l'esprit que 2017 est une année qui est tout à fait exceptionnelle et qui est allée au-delà de ce que l'économie est en capacité d'extraire, au-delà de du carburant que l'on est en capacité de mettre dans cette économie.
C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi un contre-coup de cette croissance vigoureuse de 2017 aussi.
En fait, on ne sait pas tenir la cadence, mais ce qui vaut pour la France vaut pour la zone euro. Puisque ce ralentissement que l'on voit ne nous est pas spécifique, mais on va le retrouver également en Allemagne, on va le retrouver en Italie, on le voit évidemment au Royaume-Uni, mais là, c'est pour des causes qui sont peut-être un peu différentes, mais on voit bien que on a un problème de tension sur les capacités, c'est ça qui contribue aussi à nous freiner, mais ce problème-là, il est exprimé à une puissance 2-3 fois plus importante en Allemagne qu'il ne l'est chez nous. Donc on est dans un moment où en fait on n'arrive pas à tenir le rythme de la croissance.
Pourquoi on n'arrive pas, Denis Ferrand, à tenir comme ça le rythme de la croissance? Qu'est-ce qui manque?
Alors ce qui manque bien, peut-être du sous-investissement passé. Ce qui fait que rapidement, on vient en buter sur les capacités de production. On n'a peut-être pas redimensionné l'appareil de production à une vitesse suffisante pour pouvoir se donner cette capacité à se projeter. Un autre élément, et on avait travaillé sur ce sujet, notamment avec BPI France, pour essayer d'évaluer d'où viennent les difficultés de recrutement, comment est-ce qu'on essaye de s'y adapter. Ce phénomène-là, il est criant. Dans l'enquête que nous avions réalisée avec BPI France, on voyait que 46% des chefs d'entreprise qui se déclarent confrontés à des difficultés de recrutement expriment que celles-ci freinent la croissance de leur activité. Et 44% disent que ça ne la freine pas d'ores et déjà, mais ça va le faire dans quelques mois.
C'est pour ça qu'il faut accélérer sur la réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage.
Tout à fait, parce qu'il y a un problème visiblement d'appariement. C'est le chiffre que vous avez évoqué. L'appariement entre l'offre et la demande de travail ne se fait pas spontanément. On a 8,8 de chômage et on a des difficultés de recrutement très importantes. Le matching n'est pas immédiat et c'est ça qui est un des freins importants.
On continue le tour de table, justement, tient la parole aux industriels, témoignage justement de la Fédération de la plasturgie et des composites, Florence Poivet.
Alors nous, évidemment, avant de proposer des pistes supplémentaires pour pouvoir augmenter, aller plus vite dans nos investissements et dans nos recrutements, on voudrait évidemment saluer les mesures qui ont été prises par le gouvernement et qui nous permettent, malgré tout, une croissance qui est là et que le moteur de la croissance soit toujours vivant. Et je tiens vraiment à...
Là, vous parlez de François Hollande? Parce que là, les mesures qui payent pour le moment, même plutôt le CICE,
je pense que...
Qu'est-ce que vous devez à Emmanuel Macron, finalement, aujourd'hui?
Sur les ordonnances, ça donne un souffle. Ça donne un souffle réel dans le paysage. Là, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui a été voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la formation professionnelle et l'apprentissage, c'est quand même un projet qui, normalement, aurait dû concerner que les individus, essentiellement les individus venir en regard de toute la partie ordonnance. Or, c'est un projet dans lequel le gouvernement, c'est une loi dans laquelle le gouvernement trouve un équilibre que nous trouvons particulièrement intéressant entre, oui, renforcer le droit de chaque individu, mais dans une dynamique économique et l'entreprise est bien au cœur de ce qui est voté aujourd'hui. Et c'est donc le cercle vertueux entre le social qui entraîne l'économique et l'économique qui entraîne le social.
Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en a pas vu les fruits encore.
Non.
Donc ça va venir.
Ça va venir. Mais ça donne du moral.
Voilà. Ouais, d'accord.
Et le moral, il entraîne le positif.
Et d'ailleurs, selon Opinion Banque Palatine, c'était donc le baromètre révélé la semaine dernière, la prévision de croissance des dirigeants à fin 2018, on voit 8% de ces chefs d'entreprise qui voient leur croissance à plus de 10%, 21% de 5 à 10% et 18% de plus 1 à plus 5%. Ça vous surprend pas, vous, Florence?
Non, pas du tout. Nous, en 2018, la plasturgie, c'est la première année où on bascule dans un recrutement net d'emplois. On a 1,5% de plus, on sera à 2 000 emplois créés nets sur 2018.
Depuis combien de temps vous n'aviez pas créé d'emploi sur une année entière? Sur l'industrie, c'est depuis 2001.
Oui, j'allais poser les. Je suis pas absolument sûr de ma réponse, mais c'est 2006-2007.
D'accord.
Ouais.
Okay.
Oui.
C'est un caractère tout à fait exceptionnel.
Et l'industrie embauche. L'industrie. Je veux dire, il faut le dire, il faut le répéter. L'industrie embauche et c'est un signe quand même positif dans le.
Alors, encore un mot, puis Philippe Mutrici de BPI France. Allez-y.
Il est vrai que sur les investissements, on n'a peut-être pas pris toute la mesure, mais on reste un pays où nos marges sont trop faibles. Parce que il y a certes l'investissement pour tout l'outil de production, mais aujourd'hui, toute entreprise doit investir, qu'elle soit industrielle ou pas, dans la transformation digitale, dans la transformation énergétique, dans la formation de ses collaborateurs. Ce sont des leviers d'avenir absolument stratégiques. Et pour ça, il faut des marges. Les marges, elles sont pas là pour faire des bénéfices et pour distribuer des dividendes en premier lieu. Elles sont là pour pouvoir investir dans les hommes et les femmes de nos entreprises, dans ces transformations absolument indispensables. Et on reste un pays où la taxation, et en particulier la taxation de la production, est trop élevée.
On reparlera justement de ces fameuses taxes qui empoisonnent les chefs d'entreprise avant même qu'ils aient fait le moindre centime de bénéfice. Philippe Mutrici, directeur de la prospective chez BPI France. Est-ce que vous êtes comme vos trois collègues sur ce plateau finalement? Pas forcément déçu. Il y a des choses bien quand même dans ces chiffres-là.
Bien sûr. Voilà. Bien sûr, il y a des choses bien. Je pense que la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est de comprendre que le chiffre qui sort aujourd'hui, qui est le chiffre de l'INSEE, c'est une prévision de croissance. Donc ça comprend un certain nombre de calculs sur des paramètres de la consommation, de l'export. Je ne vais pas tous les détailler ici. C'est une mesure de la santé du pays, évidemment, et cette prévision de croissance est un peu inférieure à la croissance constatée l'année dernière. Donc on peut en débattre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres façons de mesurer la conjoncture qui sont des enquêtes. Et sur ces enquêtes, on a... Nous, BPI France, c'est très récemment avec Soeurex et Code, toute une série d'enquêtes qui sont sorties et qui restent à des niveaux très très élevés. Certes, il y a eu des indices d'achat un peu en recul à partir du mois de mars, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a commencé à parler de trous d'air, mais sur une enquête ETI qu'on va sortir dans quelques jours, qu'on réalise avec la DGE...
Un scoop.
Donc le niveau, un scoop exactement, le niveau d'activité des ETI qu'on a interrogé en mars,
ouais.
C'est le défaut du scoop, il y a deux défauts dans le scoop.
Ouais.
C'est interrogé en mars et c'est annuel, c'est-à-dire qu'on est sur des tendances qu'on compare d'une année à l'autre. Ça sera la meilleure enquête sur les prévisions d'activité des ETI depuis le lancement de ce baromètre en 2011.
Et qui dit quoi, qui s'explique par quoi?
Alors il y a huit indicateurs qui sont mesurés dans l'enquête. Il y a l'investissement, il y a l'activité, il y a l'emploi, etc. Sur les huit, il y en a sept qui sont à niveau record depuis 2011. Donc simplement pour donner un exemple sur le chiffre d'affaires.
Un
chiffre d'affaires. Donc le solde d'opinion positive, c'est-à-dire les ETI qui pensent que leur activité va augmenter, moins celles qui pensent qu'elle va baisser, est à 52. Donc plus 52 en fait, solde d'opinion positif sur l'augmentation d'activité des ETI. Et si on va chercher un peu plus loin, c'est-à-dire des ETI qui sont très internationalisés, il est à plus 76. Il n'y a que 3 ETI très internationalisés qui pensent que le chiffre d'affaires va reculer. Les autres sont stables. C'est des niveaux juste incroyables. Donc quand on resitue le chiffre de l'INSEE aujourd'hui qui sort, moi je pense qu'il faut quand même garder en tête un certain nombre d'enquêtes de conjoncture qui restent à des très bons niveaux pour la France. Et puis, deuxième facteur qu'on peut également garder en tête, c'est que... j'ai perdu le fil. Donc c'est que ces chiffres, oui, ça y est, j'y suis. Donc ces chiffres d'activité sont dans des conditions de financement de l'économie qui restent extrêmement favorables. J'ai repris le fil, pardon, pour ce petit trou. Les anticipations d'investissement restent extrêmement élevées. Le coût du crédit n'a jamais été aussi faible. Dans le baromètre qu'on avait sorti avec Soeurex et Code, on avait vu que les difficultés de financement, c'était très, très, très faible au niveau de la trésorerie. On est à peu près 3% des entreprises qui disent avoir des problèmes pour financer leurs investissements. Donc, ça reste malgré tout, c'est mon point, un environnement très favorable.
Environnement très favorable. Juste quelques-uns des points que vous avez abordés, j'aurais qu'on y revienne. Faiblesse de la demande intérieure, dans cette note de l'INSEE. Est-ce qu'il va y avoir deux semestres différents Le premier, finalement, avec une hausse de la CSG et puis du prix de l'essence. Hein, donc voilà. Et puis un second, meilleur, le différent, avec les baisses de cotisations sociales, avec la revalorisation de certains minima sociaux, la taxe d'habitation aussi qui va être supprimée pour certains aussi.
Oui, mais effectivement, rappelez-vous, alors c'est vrai, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure, l'enquête qui donne la photographie complète de l'année, c'est l'enquête de juin, enfin la note de conjoncture de juin, mais rappelez-vous, c'est celle de décembre qui avait fait du bruit, parce que à ce moment-là, l'INSEE avait sorti une estimation dans laquelle... un peu rapidement, mais ils avaient montré que le début d'année allait voir une perte, un recul du pouvoir d'achat des ménages. Et de fait, c'est ce qui s'est produit avec l'augmentation de la CSG, pas intégralement compensée par les cotisations salariales, avec la taxe sur le gazole qui était augmenté, la taxe sur les tabacs également. Donc il y avait tout cet ensemble, tout ce florilège qui s'est greffé sur le début d'année. On ajoute la hausse du prix du pétrole. Voilà. Et donc ça nous a fait d'un seul coup une petite bouffée d'inflation qui a pesé sur le pouvoir d'achat. La deuxième partie de l'année,
c'est ça.
La musique change un peu. Mmh. Et donc sur l'ensemble de l'année, on a une progression du pouvoir d'achat des ménages, mais qui a effectivement est marquée sur deux semestres différents. En revanche, ce qui va être tout à fait important à voir, c'est en début d'année, on a eu quand même une déception. Je ne sais pas si elle sera révisée ou pas. C'était l'investissement. Mmh. L'investissement non seulement des ménages, mais également et surtout des entreprises. Là,
c'était
il y a
plus
eu
la performance depuis deux ans. Hein,
mais l'INSEE est assez confiant là-dessus.
Oui, parce qu'effectivement, il y a pas d'indicateurs qualitatifs, des indicateurs comme des enquêtes de conjoncture, aucun ne donnait un signal d'un arrêt de l'investissement. Et donc c'est là qu'il y a peut-être, c'est là en fait l'indicateur que j'attends le plus. Est-ce qu'on va avoir un peu de redémarrage de l'investissement? A priori, oui. Et je donne tout à fait crédit à ce que dit l'INSEE sur sa note.
Oui, mais tout à l'heure, tiens, Florence Poivet, juste un mot, puisque dans les vents contraires dont nous parlait Emmanuel Le Chip, il y avait la hausse des prix du pétrole. Quel impact sur une industrie comme la vôtre, hein, la Fédération de la plasturgie et des composites, hein.
Alors un impact réel, ne serait-ce qu'un impact de coût, mais aussi un impact ensuite d'offres sur le marché de matières plastiques, parce que ces yo-yo du pétrole sont toujours des facteurs de déstabilisation. Et donc, finalement, quand un chef d'entreprise ne peut pas anticiper de façon sereine son avenir, même si c'est un avenir à 3, 6 mois, 1 an, c'est de la compétitivité en moins qui est pour lui. Et moi, ce qui me frappe en écoutant les experts
Emmanuel Le Chypre,
c'est que en fait, on se trouve que on soit l'État ou qu'on soit une entreprise, un peu dans la même situation. C'est-à-dire que on n'est pas à l'abri d'événements extérieurs qui viennent tout d'un coup bousculer ce qu'on aurait pu imaginer. Et c'est vrai dans nos entreprises. Et ça veut dire qu'il faut renforcer considérablement nos fondamentaux.
Tout juste.
Et que ces fondamentaux-là, il faut les enraciner. Et il y a des vrais progrès qui sont faits dans ce sens-là par le gouvernement actuel au service, je dirais, du déploiement et de la croissance des entreprises. Et la loi Pacte en est encore un élément. Mais pas tous, et il faut aller encore plus loin pour les enraciner encore plus profondément.
Un mot sur cette loi PAC dont on a beaucoup parlé, notamment avec Emmanuel Le Chypre hier à l'occasion d'édition spéciale sur BFM Business, puisque Bruno Le Maire donc révélait ses 70 articles. Bon, un projet de loi qui balaye extrêmement large, hein. Ça va des mesures de simplification, le guichet unique électronique pour les démarches administratives, la redéfinition des seuils. Juste, c'est quoi les points forts et qu'est-ce qui manque justement, les impôts de production justement, ça manque considérablement. C'est ces taxes qui pullulent par dizaines, Florence Poivet, Emmanuel Le Chypre.
Alors, le premier point fort, je trouve, c'est la méthode. Un député, un chef d'entreprise, au boulot, véritablement au boulot, avec une kyrielle d'auditions pour les uns et pour les autres, je trouve ça extrêmement intéressant comme méthode. Il y a des choses intéressantes, sans aucun doute. La question des seuils, la question de l'épargne salariale, c'est évident, la suppression du forfait social. Oui, sur les impôts de production. Alors, Là encore, d'abord un point positif.
Même le fantôme, ces impôts de production, oui, personne n'en parle.
Le point positif, c'est qu'ils sont dans le paysage aujourd'hui. Ça fait des années que nous, industriels en tout cas, on en parle, on n'a jamais été écoutés. Aujourd'hui, ils sont dans le paysage.
C'est quoi, c'est 70 milliards de recettes fiscales avec des taxes diverses et variées, taxes archéologiques, taxes locales d'équipement, frais de dossier administratif.
Si vous, fois, si, si vous voulez la liste, je l'ai là.
Donnez-nous des exemples.
C'est impressionnant. TICPE, CVAE, TSCA, FNAL, TICFE, C3S, IEE, enfin bref. Et ça, chaque chef d'entreprise est amené à devoir payer toutes ces taxes, quel que soit son résultat. Oui, c'est-à-dire que s'il est en difficulté, on va lui demander quand même cela. Alors qu'on devrait être là pour l'encourager, pour l'aider, pour le supporter. Non. Il y a une liste.
Pourquoi de différents, on s'y attaque pas?
Parce que, en fait, il y a différentes étapes. Pour pouvoir s'attaquer à une mesure, on prend toujours énormément de temps. On a eu le temps de la révélation. On a le temps de la sidération face à, maintenant, du point de vue de la fiscalité de production. Ce n'est pas encore visiblement le temps de la décision. Puisque Édouard Philippe avait botté un peu en touche.
On attend un rapport dans les prochains jours.
Oui, enfin, le rapport, il peut aussi regarder les rapports de Rexecode. On en a fait déjà un rapport sur la fiscalité de production il y a de cela 4 ans. On a réestimé récemment pour le seul secteur industriel ce que voulait dire l'ensemble de ces taxes avec des acronymes qui sont tout à fait insupportables, mais c'est effectivement les versements transport, les taxes foncières, les prélèvements sur la valeur ajoutée. Et ce qui est vraiment très important, c'est de redire que ce sont des taxes qui vont frapper le haut du compte de résultat d'une entreprise. Les assiettes, c'est le chiffre d'affaires, c'est la valeur ajoutée, ce sont les immobilisations, c'est la masse salariale. Et donc, que vous fassiez ou pas du résultat, eh bien vous payez ce type de prélèvement. Et pour l'industrie, quand on compare la France et l'Allemagne, pour l'industrie, c'est un montant de 25 milliards d'euros en plus, ces prélèvements sur la production. Ça fait 10 points de valeur ajoutée. Si on enlève les crédits d'impôt, parce qu'il y en a en France, crédit d'impôt recherche, CICE, il n'y en a pas en Allemagne, l'écart, il est ramené à 18 milliards, 7,8 points de valeur ajoutée. Ça fait quand même une paille.
Ça fait lourd. Philippe Mutrici, BPI France, Emmanuel de Chypre.
Je dirais simplement qu'il y a peut-être quelques contraintes budgétaires qui font aussi que la décision n'est pas complètement arrivée. Mais il y a d'autres nouvelles qui sont assez bonnes. Vous en avez beaucoup parlé sur cette antenne, mais le rapport EY qui est sorti il y a 15 jours sur l'attractivité de la France, il est excellent. Donc, premier pays en termes d'attractivité, avec une attractivité qui a cru par rapport à l'année dernière et qu'on anticipe qu'elle va encore croître sur l'année à venir. Donc il y a quand même un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens.
Emmanuel, le Chypre.
Non, oui, il y a un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens. Les taxes à la production, c'est quand même les taxes dont il ne faut pas prononcer le nom comme dans Harry Potter, vous voyez, tellement ça fait mais c'est quand même considérable, il y a des travaux qui ont été faits pour montrer que la corrélation entre le taux de chômage local et ces impôts à la production, et vous avez une corrélation assez nette entre les taux de chômage sur les bassins d'emploi avec le niveau des taxes à la production. Donc c'est un sujet absolument majeur. Après, pour le reste de la loi Pacte, tout va être encore une fois dans l'exécution. Alors on a un gouvernement qui semble avoir conscience que il suffit pas qu'une loi soit votée pour qu'elle soit appliquée. Pour en avoir discuté avec Muriel Pénicaud, qui dit que grosso modo elle va consacrer toute la deuxième partie du quinquennat à l'exécution de ces lois, parce que c'est ça qui fait que ça marche pas. Hein. Regardez, qu'est-ce qu'il y a sur la participation et l'intéressement dans cette loi Pacte? Rien de plus que ce qu'il y avait dans le rapport Sudreau en 75, qui finalement n'a pas été mis en œuvre par Valérie Giscard d'Estaing. Il y avait eu cette loi Pacte, c'est la loi la plus importante pour les entreprises depuis la loi LME de Nicolas Sarkozy, mais qui n'avait pas été non plus suivie de beaucoup d'effets, parce que là encore, bon, l'exécution n'avait pas été terrible. Après, est-ce que ça fera... Alors Bruno Le Maire nous a parlé d'un point de croissance potentielle supplémentaire à l'horizon des prochaines années. Potentiellement, pour avoir fait un petit calcul avec Denis hier, on s'est dit que un point de croissance potentielle en plus, c'était pas seulement la loi Pacte, c'était sans doute l'ensemble de la politique Macron, et que là, finalement, le point de croissance potentielle supplémentaire devenait crédible. Mais la seule loi Pacte, non, certainement pas.
Philippe Mutrici, BPI France.
Oui, moi je vois une mesure qui est très intéressante dans cette loi Pacte. Il y en a évidemment plusieurs, hein. Mais c'est celle qui porte sur, pardon, un peu technique, les ICO. C'est quoi une ICO? Les Initial Coin Offering. Donc c'est toutes les nouveaux modes de financement de l'économie par émission de jetons, de crypto-monnaies, etc. Il y a tout petit article de loi pour le moment, cet article n'est pas très commenté, mais je pense qu'il le sera, parce qu'il est très symbolique de la volonté, encore une fois, de faire du pays un pays extrêmement attractif. Donc, pour faire simple, ces ICO, ce sont des nouveaux modes de financement de l'économie. Il faut attirer des talents du monde entier pour que ces ICO, elles se fassent en France. Sinon, les start-up françaises, elles iront se financer ailleurs. Et ce petit article de loi qui n'a l'air de rien, qui a été fait après une période de concertation remarquable pilotée par l'AMF, ce petit article permettra de rester dans la course des nouvelles technologies et du financement moderne de l'économie.
C'est une demande de la MAFI, l'Association des marchés financiers.
Moi, il y a Florence Poivet.
Alors, dans les mesures que j'aime beaucoup, c'est celles qui sont liées à l'incitation à l'actionnariat des salariés et à l'épargne des salariés. Parce qu'on sait que dans notre pays, la culture économique de chaque Français est un peu en dessous de ce qu'elle devrait être pour porter le pays de façon plus efficace. Et que là, c'est un des leviers privilégiés.
Juste un mot, et puis on se retrouve dans un sens que je voudrais absolument qu'on évoque. Hein, les nuages, les menaces, que ce soit la guerre commerciale, que ce soit les crises en Europe, en Italie et la crise en Allemagne. Denis Ferrand, c'est Emmanuel Le Chip qui rendait hommage quelque part à sa façon à François Hollande avec le CICE et le pacte de responsabilité. Vous avez signé aujourd'hui même une étude CO Eurexecode sur la compétitivité de la France. En 2012, l'écart de coûts salariaux horaires entre la France et ses partenaires européens, notamment l'Allemagne, il était au plus haut. Il y a eu le CICE, le pacte de responsabilité. Mais le CICE, il perd de la vigueur maintenant. Oui. Avant sa transformation en baisse de charges l'an prochain en 2019, qu'est-ce qui va se passer?
Oui, tout à fait. Ce qui s'est produit, c'est que pour donner simplement trois chiffres, en 2000, le coût salarial dans l'industrie en France, il était 15% en dessous du coût salarial horaire en Allemagne. En 2012, il avait convergé. L'écart avait été annulé. Avec le CICE, avec le pacte de responsabilité et avec un peu d'accélération des salaires en Allemagne, on a retrouvé un écart de 7%. Maintenant, eh bien, cet écart, il va cesser de diverger parce que le CICE passait de 7 à 6%. Ça vous rehausse le coût du travail. À partir du 1er janvier 2019, on va avoir un basculement du CICE en allègement de charges. Eh bien, à ce moment-là, on va retrouver comme un CICE à 7, mais avec une différence, c'est que là, un allègement, ça vient dans le haut de la formation du résultat des entreprises, et donc ça va donner lieu à un retour de prélèvement, ça va donner lieu à un retour d'IS, et donc à un prélèvement de fait sur le coût du travail.
Oui, Emmanuel Le Chip.
Bah oui, c'est vrai que on voit bien que l'industrie manufacturière, c'est vraiment là le point faible, notamment en termes de commerce extérieur, de compétitivité. Donc oui, il faut effectivement regagner en compétitivité coût, mais regagner surtout aussi en compétitivité plus globale, nos services. Rappelez-vous quand même que on a un déficit des biens, mais que pendant très longtemps ce déficit des biens a été compensé par un excédent d'à peu près 20 milliards dans les services, que cet excédent il a disparu. Donc ça c'est pareil, on n'en parle pas trop, on est focalisé sur l'industrie manufacturière un peu trop à mon sens, parce qu'il y a beaucoup de problématiques sur la compétitivité des services qui ne sont pas forcément adressées aujourd'hui.
Bon, on continue dans un instant, la crise allemande autour des migrants, la guerre commerciale États-Unis Chine justement, et puis on entendra Emmanuel Macron justement qui annonce des choses nouvelles à partir de 2021, le budget de la zone euro qui va démarrer, on verra ce que ça vaut, à tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, le chiffre, bon, qui apparaît comme ça sur le papier décevant, non, il contient quand même pas mal d'éléments positifs. C'est ce que nous ont expliqué Denis Ferrand, CEO Eurexecode, Florence Poivet du MEDEF, Emmanuel Le Chip de BFM Business et Philippe Mutrici de BPI France. C'est l'estimation de la croissance de la France donc en 2018, selon l'INSEE, plus 1,7%, donc ralentissement par rapport à 2017, bien sûr, à 2,3%. Il y a un certain nombre d'inconnus, et d'ailleurs on l'a encore vu aujourd'hui, la Bourse de Paris, on recule d'1,1% sous l'effet du différend commercial entre les États-Unis et la Chine qui s'accélère depuis quelques jours. Il y a la crise allemande autour des migrants, bien sûr, l'Italie dirigée par les populistes, les propos de Mario Draghi ce matin à Sintra au Portugal, qui expliquait que la BCE devra être patiente pour décider du calendrier de sa première hausse des taux d'intérêt depuis des années. Et puis le retour aussi de sanctions en Iran qui va contraindre de grandes entreprises quelque part, comme Airbus, PSA, à se retirer du pays. Donc tout ça, ça s'accumule quand même. La crise allemande autour des migrants quand même, cet ultimatum de la CSU à la CDU en disant « Vous fermez les frontières, sinon vous à moins de trouver une solution européenne aux défis migratoires. » Bon, crise politique évidemment, qui est une source d'incertitude. Il y a Emmanuel Macron qui se trouvait cet après-midi sur place. La question, en effet, est-ce que cette crise migratoire peut menacer l'élaboration de la feuille de route franco-allemande? Non, non, ils ont été très clairs, les deux chefs d'État et de gouvernement. Le président français, nous rentrons aujourd'hui dans une deuxième étape de la vie de l'euro. Voilà ce qu'il expliquait.
Nous souhaitons, en effet, pouvoir réviser nos instruments afin que, lorsqu'un pays fait face à un choc dit asymétrique, il puisse y avoir un mécanisme d'aide, ou lorsque son système financier est bousculé, il puisse y avoir un mécanisme de stabilité et de solidarité. Ensuite, nous nous sommes mis d'accord sur la création d'un budget de la zone euro avec une fonction de convergence et d'investissement entre les économies de la zone euro.
Bon, alors, ça va avoir le jour, les 27 vont se mettre d'accord, comment ça va fonctionner, Emmanuel Le Chip, ce truc?
Mais c'est-à-dire, je suis interloqué par le décalage entre les préoccupations des Européens et les réponses qu'on apporte à ces préoccupations. C'est-à-dire que on nous parle crise des migrants, solidarité entre pays européens, et on nous répond, alors oui, solidarité, mais on nous répond budget, etc. Moi, je trouve que sur la question européenne, Emmanuel Macron, il a complètement perdu le fil qu'il avait tiré au début de son mandat, qui était
notamment
qui était de vouloir changer la perception que les Européens ont de l'Europe. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur le budget européen, etc. Si vous ne changez pas la perception de l'Europe par les Européens. Et il avait bien commencé en s'attaquant à la question des travailleurs détachés, qui a du sens, c'est du concret pour les Français, hein, qui tous les salariés du bâtiment, de la restauration, etc., qui sont concurrencés directement
par les Polonais et
du sens. Là, franchement, à votre avis, qu'est-ce que les Européens y comprennent que ça va changer à leur vie d'avoir un budget unique, etc., etc. Moi, je vais vous dire, le sentiment sur l'Europe, il est incroyablement changeant. 2016, on était super inquiets. 2017, on s'était dit, oh, c'est formidable, toutes les élections ont été favorables à l'Europe, on s'en est bien sortis, etc. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, la peur, elle est à nouveau en Europe. Prenez par exemple la politique monétaire. On avait dit, on était très inquiets sur les États-Unis, comment ça va se passer, la Fed va jamais pouvoir remonter ses taux, quand va se présenter la prochaine récession, la Fed sera complètement à poil parce qu'il y aura un gros déficit public, il y aura des taux d'intérêt zéro. Et ben, qu'est-ce qu'on voit? Que mine de rien, Trump, avec son air con et sa vue basse, eh ben, il prolonge le cycle de croissance américaine, il permet à la Fed de remonter ses taux et de se réarmer pour la prochaine récession. Et en Europe, vous voyez quoi? Vous voyez que finalement, on nous dit, on est incapable de remonter les taux.
Voilà.
À un moment où on se dit que le cycle, il va pas durer autant qu'aux États-Unis, vous voyez l'espèce de désarroi dans lequel se trouvent toutes les capitales européennes avec cette lente agonie qu'a commencé Angela Merkel sur le plan politique, l'Italie, l'Espagne, etc. Moi, je finis par être à nouveau très inquiet pour l'Europe.
On n'est pas capable comme ça d'affronter un peu ces vents contraires venus d'Europe. Il y a des mauvaises réponses qui sont apportées, comme le dit Emmanuel Le Chip. C'est vrai qu'on aurait pu parler aussi de l'Italie.
On a l'impression que Macron s'enferme dans tous les débats qu'on pas abouti alors, depuis 20 ans, et en s'y prenant de la même façon.
Denis Ferrand, CEO avec ses codes.
Effectivement, je pense que l'Italie est un très bon exemple. Le vote italien, c'est un vote qui est anti-migrant, principalement. Sure. Et de ce vote anti-migrant, le risque est qu'il devienne un vote désormais anti-euro. Quand on voit aussi les réactions qui sont intervenues, avec c'est vrai qu'il y a des propositions quand même extrêmement ésotériques dans un premier temps. Mais on a un sentiment que petit à petit, bien l'inquiétude, elle se repositionne vis-à-vis de l'Europe. Et je partage complètement le point d'Emmanuel. On a fait 2,3 l'année dernière de croissance, 2,5 en France, 2,5 en zone euro, et avec une politique monétaire qui est à fond, mais on est fou, on ne sait pas du tout redonner les moyens de reconstituer de la réaction. La première des réactions quand on a un choc dans une conjoncture économique, c'est d'actionner la politique monétaire, pas tout de suite la politique budgétaire. La politique monétaire, on doit pouvoir la recharger, on ne l'a pas fait, et maintenant on risque de le faire certainement beaucoup trop tardivement, comme toujours avec des remontées inadaptées.
Les inconnus également aussi, qui pèsent, qui planent comme ça, ces menaces. Philippe Mutrici, la guerre commerciale. Chine, États-Unis, trois jours après avoir imposé comme ça des droits de douane de 25% sur 50 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine, Trump, qu'est-ce qu'il dit hier? Ça sera 10% sur 200 milliards de produits chinois supplémentaires pour compenser. Il parle de vol de technologie, de propriété intellectuelle américaine. Alors, Pékin menace Washington de représailles. C'est quoi les conséquences économiques à venir? C'est quoi les options de la Chine? La Chine, est-ce qu'elle va, elle va se coucher devant les Américains?
Malheureusement, je ne saurais pas répondre. Ce qui me semble assez évident, depuis un an, même si je suis pas un expert en politique de Monsieur Trump, ce qui me semble assez évident, c'est que ce président américain, d'abord, il a comme préoccupation première ses promesses électorales, et il les applique les unes après les autres, quelles qu'en soient les conséquences économiques, dans la mesure où c'est la première puissance mondiale, à la limite, les autres économies suivront devant s'adapter. Mais le point qui me semble important, c'est qu'il cherche en permanence à instaurer des rapports de force. Donc en fait, il va toujours commencer par prendre une mesure forte, en annoncer une derrière qui va être encore plus forte, pour ensuite se prendre la balle de retour et éventuellement commencer les négociations. Là, il me semble que les Chinois sont peut-être un peu mieux armés que l'Europe dans ce débat, mais j'ai pas non plus toutes les clés. Et il y a un autre point qui me semble très important, c'est que si on regarde ce débat sous l'angle du chef d'entreprise, que madame pourrait mieux développer que moi, je vais lui passer la parole tout de suite, mais moi ce qui m'inquiète toujours dans ces débats de questions internationales, de zone euro, de libre-échange, etc., c'est que finalement le chef d'entreprise, il se dit, à la fin de la journée, est-ce que je dois renoncer à l'investissement dans la machine-outil que j'avais prévu ou pas? Est-ce que je dois renoncer aux nouvelles embauches ou à l'exploration d'un nouveau marché ou pas? Je pense que, nous pensons à BPI France, que s'il prête trop d'attention à cette actualité internationale qui est toujours angoissante, toujours stressante, et au final, on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises. Il y a des mauvaises, mais aussi des bonnes surprises. Je pense qu'il ferait mieux de ne pas trop écouter, de ne pas trop regarder ces nuages noirs, et plutôt rester focalisé sur son plan de développement.
Alors, Florence Poivet, justement, est-ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe quand on est chef d'entreprise, ancienne présidente de la Fédération de la Plasturgie,
Emmanuel Le Chip,
à ce qui se passe en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, en Iran, ou alors bon, on met des œillères et puis on se bouche les oreilles?
Non, il faut du bon sens. Il y a un mélange de tout. Il y a de très bons journalistes, donc il faut les écouter. Il y a de très bons économistes, il faut les écouter. Mais j'étais la semaine dernière à une remise de prix de chef d'entreprise, et il y avait une remise de prix visa pour l'international. C'était une PME, son premier marché à l'international au Pakistan. Fantastique, héroïne de l'international. Moi, je crois qu'il faut fondamentalement y croire. Cette audace, elle doit nous habiter en permanence quand on est chef d'entreprise. Alors après, il faut mettre du bon sens. Après, il faut se mettre les bonnes barrières pour que ces expériences ne soient pas des expériences catastrophiques. Mais oui, il faut y croire et partout, même quand le vent est contraire, partout, ça continue à avancer.
C'est vrai que les journalistes et les économistes, ils parlent. C'est vrai que vous, les décisions et les risques, c'est quand même vous qui les prenez.
Ils agissent.
Il faut rester audacieux.
Au-delà du bon sens de la chef d'entreprise qui est Madame Poivet, quand même. Quels sont les risques économiques de cette guerre commerciale, cette escalade quand même depuis deux jours entre Chinois et Américains?
Alors, il y a le risque économique et évidemment, ça va être... par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Emmanuel, il y a quand même l'élément qui peut poser question, c'est un peu la contradiction qu'il y a dans les politiques, dans la politique américaine de Trump, c'est-à-dire que on a une politique fiscale qui redistribue énormément de pouvoir d'achat, et on a une politique commerciale qui peut quand même avoir comme premier impact une remontée des prix. Oui. Et là, on peut se retrouver avec des politiques économiques qui se retrouvent en ciseaux, d'une certaine manière. Ça, c'est quand même un des premiers risques, c'est d'avoir un peu de réaccélération d'inflation. Et je vais prendre un exemple très simple, c'est l'exemple du secteur de la construction aux États-Unis. C'est un secteur qui, en ce moment, est en train de se prendre les deux conséquences immédiates de la politique de Trump. Remontée des taux d'intérêt, hausse des prix. Hausse des prix, pourquoi? Parce que quand on fait de la construction aux États-Unis, on va mettre du bois, notamment le bois, ça c'est très utilisé pour la construction. Or, qu'est-ce qui a été décidé en mai de l'année dernière? Montée des taxes sur les importations du bois du Canada. Résultat, augmentation forte des coûts de la construction, en même temps, augmentation des taux d'intérêt, et il ne faudra pas se surprendre et être surpris s'il y a un arrêt assez fort de l'activité dans la construction. Donc on est en train d'avoir les premiers tests.
De toute façon, les travaux qui sont sortis là que Benahouda Abdennaïm a évoqué notamment aujourd'hui, je crois, à l'antenne, c'est clairement les Chinois, ils sont pas fous, ils ont choisi des mesures de rétorsion qui frappent l'électorat de Donald Trump, c'est-à-dire l'industrie manufacturière, l'agriculture, et tous les scénarios qui sont faits vous montrent que c'est des dizaines de milliers d'emplois qui vont être supprimés à cause de ces mesures protectionnistes.
Benahouda Abdennaïm, c'est 6h20, 7h40 dans Un Monde qui bouge avec Stéphane Soumier le matin. Juste une dernière question à propos justement de toutes ces réglementations diverses et variées et pas forcément protectionnistes, je ne sais pas. Florence Poivet, l'industrie du plastique, est-ce qu'elle est menacée quelque part? On voit en mois de mai l'interdiction par les députés des bouteilles d'eau en plastique dans les cantines scolaires en 2020. On voit deux semaines après la Commission européenne qui veut réduire l'utilisation des objets en plastique comme les pailles, les cotons-tiges, etc. Comment vous organisez justement pour répondre à ces nouvelles réglementations anti-plastiques?
Ah, elle est terriblement challengée, ça sans aucun doute. Alors, la première chose, vraiment, je veux le dire avec force, on est tous, chaque entrepreneur de la plasturgie, on est très concerné par notre planète. Chacun de nos collaborateurs l'est. Et nos futurs collaborateurs, ils sont très exigeants. Donc oui, on est très engagé sur ce sujet. Pour vous dire, par exemple, dans les nouveaux métiers que nous projetons, on a imaginé le réincarnateur perpétuel, c'est-à-dire celui qui, partout dans l'entreprise, de l'achat de la matière jusqu'au produit là où il va être vendu, s'assure que il peut vivre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, éternellement. Donc c'est un vrai sujet. On est
menace ou pas sur l'emploi?
Dans certains secteurs, potentiellement, oui. Mmh. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il faudrait, à mon sens, que le gouvernement, mais les gouvernements, se dotent d'une référence scientifique à laquelle nous attacherions tous. Aujourd'hui, on est ballotté. Mmh. Certaines ONG font très bien leur travail, pas de souci, et on travaille avec certaines de façon. Mais on est ballotté entre une décision politique, politicienne, entre une ONG qui est... Bon. Et alors que avec une référence scientifique, on dirait OK, et on s'inscrit dedans, voilà. Et on s'adapte, et on y va.
Merci à vous. Merci Denis Ferrand, directeur général de CEO Rexecot. Florence Poivet, membre du conseil exécutif du MEDEF, encore il y a quelques jours présent de la Fédération de la Plasturgie. Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. Et puis Philippe Mutricy, directeur de la prospective de BPI France. Ce mercredi soir, il y aura Plus Grand Plus Fort avec Stéphane Soumier. On se retrouvera évidemment très rapidement, normalement jeudi.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.